Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée. Écouter lire, l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
La semaine dernière, nous avons laissé Maigret perplexe, fumant avec délectation son inséparable pipe et guettant le fait significatif qui ne manque jamais de se produire. Le tout, dit-il, c'est d'être là quand il a lieu et d'en profiter. Eh bien, nous y voilà. À 3 heures de l'après-midi, le bureau de Maigret affichait toujours le même désordre, avec en plus des verres à bière sur la table, des restes de sandwich, des cendres de pipe un peu partout et des bouts de cigarettes, car le commissaire avait fini par envoyer chercher des cigarettes pour Céline. La situation, à tout prendre, frisait le ridicule, et cela devait se savoir dans la maison, car à plusieurs reprises, des collègues vinrent entrouvrir la porte sous des prétextes évidents. À l'hôtel de l'Étoile du Nord, le brigadier Lucas, le meilleur collaborateur de Maigret, menait en vain une enquête approfondie. Non seulement le couteau demeurait introuvable, et on avait démonté tous les WC, mais aucun témoignage n'apportait le plus petit indice. Si bien qu'en somme, on ne savait que ceci. Un peu après 3 heures du matin, une certaine Céline, dont on ignorait tout, avait sonné à l'hôtel et avait demandé une chambre pour le reste de la nuit. Moins d'un quart d'heure plus tard, Georges Bompard, porteur d'une trousse de voyage, pénétrait dans le même hôtel et louait une chambre où Céline ne tardait pas à le rejoindre. 2 heures après, enfin, Bompard ouvrait la porte, appelait au secours et s'affalait, atteint d'un coup de couteau dans le milieu du dos, cependant que la jeune fille essayait de disparaître. Les journaux de l'après-midi venaient de sortir, ils publiaient en première page la photographie d'une Céline méconnaissable, tant la jeune fille s'était obstinée à grimacer devant l'objectif. « Dites-moi, mon petit, quand Bompard vous a accosté dans cette rue de Montmartre, dont vous avez oublié le nom, avait-il déjà sa mallette à la main ?»« Non. Vous êtes entré dans 2 boîtes de nuit. Il n'avait toujours pas la mallette ?»« Et pourtant, quand il est descendu à l'hôtel, il en avait une. » Nous sommes allés la chercher ensemble dans un petit bistrot ouvert la nuit, près de la place Pigalle, où il l'avait laissée en consigne. Dans la chambre, il a ouvert cette mallette devant vous ?
Non. Oui, je ne sais plus.
D'où a-t-il retiré le billet de 1 000 francs ? Sans doute de son portefeuille. Sachez que ce portefeuille, quand nous l'avons trouvé, était vide. Il faudrait donc croire que Bompard vous a donné tout ce qu'il avait sur lui, en gardant à peine assez de monnaie pour payer sa chambre le lendemain matin.
Ça ne me regardait pas.
Évidemment, elle avait réponse à tout, et sa thèse était logique dans son incohérence même. Que tenter d'autre pour la démonter ? La chansonnette ? Maigret s'y résigna, prit son air le plus bonhomme. Vous ne trouvez pas que nous finissons l'un et l'autre par être ridicules ? De mon côté, j'essaye de vous faire dire que vous avez tué Bompard, alors que vous ne l'avez peut-être pas tué, et de l'autre côté, vous vous obstinez à prétendre que vous ne savez rien, alors que vous savez quelque chose. C'est donc moi qui tiendrai le bon bout, remarqua-t-elle. Ma foi, oui. Seulement, cela ne durera pas. Lucas vient de me téléphoner qu'il est sur une piste sérieuse. D'une heure à l'autre, la situation sera renversée. Vous vous trouverez en mauvaise posture. Raisonnons calmement, tous les deux. Et arrêtez-moi si je me trompe. D'abord, un fait indéniable, Bompard a été tué d'un coup de couteau. Or, il est improbable, à moins de croire à la préméditation, que vous ayez eu un couteau de cette taille dans votre sac à main. Il ne devait pas davantage en traîner sur la table. Et la trousse de toilette, qui aurait pu en contenir un, était fermée.
Je n'ai jamais affirmé ça.
Soit elle était fermée ou ouverte, cela importe peu. Le fait est qu'une femme de votre gabarit se risque rarement à jouer du couteau. Si vous aviez eu l'intention de tuer un amant infidèle ou un séducteur cynique, vous auriez fait l'emplette d'un revolver. Donc, vous n'avez pas tué Bompard. Il faut donc supposer que quelqu'un est venu du dehors, et je vais vous prouver que ce quelqu'un ne peut être venu qu'alors que vous étiez là. Elle s'était levée et avait collé le front à la vitre tandis que le crépuscule tombait sur un Paris mouillé. En premier lieu, si vous étiez parti calmement après des étreintes qui ne me regardent pas, il est fort probable que vous n'auriez pas oublié un de vos bas au pied du lit. Vous auriez ramassé avec soin vos affaires, en petite personne raisonnable et calme que vous êtes. Il disait cela par ironie, car au même moment, il voyait comme des frissons passer sur la nuque de la jeune fille. Vous m'écoutez, Céline ? En second lieu, Bompard a été frappé dans le dos, ce qui indique où qu'il était occupé avec une tierce personne, vous, quand l'assassin a surgi, ou qu'il ne se méfiait pas de cet assassin. Voilà où nous mène un raisonnement à peu près rigoureux. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. Dans votre intérêt, c'est de parler le plus tôt possible. Vous voulez me faire croire que vous exercez la profession de racoleuse, pour ne pas employer un mot plus cru ? Si je me laissais persuader, je ne manquerais pas de vous faire remarquer que, dans ce cas, vous avez fort probablement un amant, un de ces amis sérieux qu'on appelle aussi d'un autre nom. Cet amant, vous voyant entrer à l'hôtel avec un homme riche en apparence, l'idée de le dévaliser, vous m'avez suivi et vous comprenez enfin que votre intérêt est de me dire nettement et sans détour ce que vous avez vu. Il y eut un long silence, la jeune fille regardait toujours par la fenêtre. Maigret était à l'affût de ses moindres réactions, mais sans grand espoir. Enfin, elle se retourna, aussi pâle que le matin quand elle sortait de l'identité judiciaire. Elle alla s'asseoir sur sa chaise, avec lassitude, repoussa du pied les papiers épars sur le plancher. « C'est tout, » soupira-t-elle. « Pourquoi ne pas avouer tout de suite ce que vous serez forcé d'avouer dans une heure ou deux ?» Un amer sourire retroussant ses lèvres, elle laissa tomber. « Vous croyez ?» On aurait pu penser qu'elle était vaincue, qu'elle allait se décider. Elle restait là, à regarder le sol, les mains jointes sur ses genoux croisés. Maigret n'osait pas bouger par crainte de l'influencer. Enfin, elle se secoua, chercha les cigarettes sur le bureau, en prit une, qu'elle alluma d'un geste familier. « Vous faites un drôle de métier, » constata-t-elle alors. « Cela ne vous gêne pas un peu ?» Il ne broncha pas. « Vous croyez que c'est malin, tout ce que vous avez raconté ?» Et vous vous figurez vraiment que vous savez quelque chose de moi ? Je me figure que je vais savoir, dit-il d'un ton pénétré. Sans blague, c'était décourageant. D'une seconde à l'autre, elle changeait, reprenait son accent du matin quand elle parlait de sa vie de racoleuse. C'est toujours de cette façon que vous menez vos enquêtes ? Au lieu de se fâcher, Maigret était émue car on percevait enfin en elle une angoisse contenue, un désespoir qui allait peut-être renverser la frêle barrière de sa volonté. Écoutez, Céline. Je ne m'appelle pas Céline.
Je sais.
Vous ne savez rien du tout. Vous ne saurez rien. Et si le malheur veut que vous sachiez quelque chose, vous en porterez le poids sur la conscience. Maintenant, envoyez-moi en prison si ça vous amuse. Donnez des interviews aux journalistes qui écriront des colonnes sur la jeune fille qui ne veut pas dire son nom.
Qu'est-ce que vous faisiez à Bordeaux ?
Quand ? S'écria-t-elle en tressaillant.
Il n'y a pas bien longtemps. Je vous donnerai la date exacte tout à l'heure. D'après votre accent, vous n'êtes pas du tout du Midi, ni du Sud-Ouest.
Et pourtant, elle soupira, accablée par une lassitude qui n'était pas feinte.
J'en peux plus. Si vous m'envoyez en prison, là, au moins, je pourrais peut-être dormir.
Vous pourrez dormir dès que vous m'aurez dit.
C'est un chantage.
Il se troubla et balbutia. Mais non, espèce d'idiote, vous ne comprenez pas que ce que je fais, c'est pour vous ? Vous ne savez pas que quand vous aurez franchi cette porte, vous serez une inculpée et que vous ne dépendrez plus du parquet ?
M'avez-vous vu prendre une seule note ? M'avez-vous vu rédiger un procès-verbal de cet interrogatoire ?
Elle l'observait curieusement. Tant que vous êtes ici, comprenez bien que... Mais il n'acheva pas, il en avait déjà trop dit. Il l'aurait battue comme une petite fille désobéissante et à d'autres moments. Voulez-vous que nous reprenions par le commencement, que je vous prouve que votre système ne tient pas debout ? Elle leva les yeux vers lui et articula.
Je le sais.
Alors ? Alors, c'est pas possible de faire autrement.
Je n'en peux vraiment plus. Si vous me laissiez coucher par terre, je dormirais.
La sonnerie du téléphone retentit et Maigret tourna le dos à la jeune fille qui effectivement se coucha sur le plancher et ferma les yeux. « Allô, c'est toi ? Tu as encore du travail au bureau ? C'est l'électricien qui est ici et qui demande s'il doit installer une prise de courant dans la remise aux outils. » Madame Maigret téléphonait de là-bas, à Meung-sur-Loire, où la petite maison remise à neuf attendait le commissaire dans 48 heures. « Quel temps fait-il » questionna-t-il. « Sec, il y a grand vent. » À Paris, il pleuvait toujours, et Maigret aurait aimé que le vent de la Loire vînt balayer l'atmosphère tendue, crispée, malsaine de son bureau, où depuis des heures se poursuivait une lutte épuisante. L'écouteur à l'oreille, il laissait peser son regard sur cet être énigmatique qui lui tenait tête avec l'énergie invraisemblable dont certaines femmes sont seules capables et qui mentait comme savent mentir les jeunes filles. « J'écoute, oui. Je peux encore te parler un instant ? L'électricien demande encore s'il doit poser un timbre à la porte d'entrée. Moi, je pense que le marteau suffit. Parbleu ! » Mais son parbleu ne s'appliquait pas seulement à la porte d'entrée et au timbre de la maison de Meung. Maigret n'écoutait plus. Il avait hâte de raccrocher et de s'occuper d'autre chose. Il répondait vaguement « Oui, bien, mais fais comme tu voudras, c'est ça. C'est ça. Bonne soirée, chérie. » Et le chéri suffisait à ramener vers lui le regard curieux de la jeune fille, tant il est vrai qu'une femme reste une femme, en dépit du tragique des événements. Ouf ! Maigret a une sensation de délivrance. Il lui semblait qu'après avoir tourné longtemps en rond, sans trouver la moindre issue, il se trouvait enfin devant elle. Il avait recouvré sa faculté de raisonnement. Son tort avait été de rester trop longtemps avec cette gamine, dans une atmosphère étouffante. « Allô ? Lucas est rentré ? Qu'il monte immédiatement à mon bureau. Oui, avec tous les procès-verbaux de l'affaire de l'Hôtel du Nord. Là-dessus, une pipe, une gorgée de bière, quelques pas vers la fenêtre qu'il en trouvait en dépit de la pluie. Un instant seulement, pour changer l'air, s'excusa-t-il. » Certes, il n'avait pas trouvé l'assassin de Georges Bompard, et l'idée qu'il venait d'avoir n'avait rien de sensationnel, mais elle suffisait à le faire sortir du cercle. Cette idée était celle-ci. Quand le crime avait été commis, il y avait au rez-de-chaussée un gardien de nuit sans l'aide duquel il était impossible de sortir de l'hôtel. Or, ce gardien de nuit déclarait n'avoir ouvert la porte à personne et n'avoir pas quitté son poste. D'autre part, au premier étage, le patron était debout, occupé, avait-il dit, à passer son pantalon et il s'était précipité vers l'étage dès qu'il avait entendu les appels au secours. En supposant donc, comme Maigret le faisait, que la jeune fille n'avait pas tué, en supposant qu'elle avait assisté au drame et qu'elle se taisait pour une raison majeure, Lucas entrait une liasse de papier à la main. « Entre, assieds-toi. Tu as la déposition du gardien de nuit ?» Et il lut à mi-voix du bout des lèvres. « Joseph Dufieux, né à Moissac, ait entendu les appels venant du second étage presque en même temps que les pas de mon patron dans l'escalier. » C'est moi qui ai téléphoné aussitôt à police secours, puis qui ai appelé un agent qui passait et qui s'est mis en faction devant l'hôtel. Maigret le faisait-il exprès de poursuivre son enquête en présence de la jeune fille ? Toujours est-il qu'elle dressait l'oreille et manifestait une certaine inquiétude. « Tu as interrogé tous les locataires, Lucas ? Les procès-verbaux sont ici. J'ai la certitude qu'aucun d'eux ne connaissait la victime. » Et n'avait par conséquent de raison de s'attaquer à elle. Le patron, d'où est-il, lui ? Toulouse. C'était encore vague, certes, mais dans cette brume, des idées n'en commençaient pas moins à se dessiner, et Maigret marchait de long en large, les mains derrière le dos, la pipe aux dents. Il refermait la fenêtre, se campait de temps en temps devant son inconnu que cette transformation troublait. « Bon, suis bien mon raisonnement, Lucas. » Suppose que mademoiselle ici présente n'ait pas tué Bompard. D'après ton enquête, ce n'est pas non plus un voyageur qui est le meurtrier. Or, deux hommes affirment que personne n'est sorti de l'hôtel. Ces deux hommes sont Dufieux, le gardien de nuit, et le patron. Qu'est-ce qui empêche que l'un ou l'autre soit une ancienne connaissance de Bompard, ayant une vieille querelle à vider avec lui ? Il s'interrompit soudain, mécontent. Non, c'est pas le gardien de nuit, puisque Bompard a vu celui-ci en arrivant, lui a remis sa fiche, a eu le temps de le reconnaître. Si une discussion ou un règlement de compte avait dû avoir lieu entre eux, ça se serait produit avant, dès 3h30 du matin. Pourquoi la jeune fille se détentait-elle comme soulagée ? Et pourquoi Maigret poursuivit-il toujours à voix basse ? Quant au patron, voyons, se fait-il réveiller par le gardien de nuit ? Non, il possède un réveil matin. Il n'était pas encore descendu au moment des appels au secours. Dufieux n'était pas monté, donc le patron ne pouvait savoir que Bompard était dans son établissement. Il s'assit lourdement. Comme cela arrive souvent, il était parti avec confiance sur une idée et il s'apercevait qu'elle ne le conduisait nulle part. « Fais-nous monter à boire, Lucas. Qu'est-ce que vous prenez, ma petite ? Un café ? Vous croyez que vous n'êtes pas assez nerveuse comme ça ?» Dire que d'un mot elle aurait pu tout éclairer et qu'elle se taisait obstinément. Il la regardait avec rancune. Il voulait aboutir coûte que coûte. Il ne se voyait pas, à la fin de sa carrière, remettant la jeune fille aux mains du juge en déclarant « Elle est coupable ou elle ne l'est pas. Voilà plus de 12 heures que j'ai la chambre et je n'ai obtenu aucun résultat. » Lucas, lui, savait qu'en ces occasions, il valait mieux se faire tout petit et après avoir commandé les demi et le café, il se tenait immobile dans un coin. « Tu comprends, vieux, il y a un personnage auquel je suis toujours obligé de revenir. C'est le gardien de nuit. Seul, il savait que Bompard était dans l'hôtel. Seul, il pouvait voir sortir l'assassin. Attends, on frappa à la porte. Il hurla. « Non, je ne suis pas là pour personne !» Il était à nouveau debout, animé. La liste des locataires, vite. Tu as bien dit que le garçon était de Moissac, le patron de Toulouse. Voyons les voyageurs. Londres, Amiens, Compiègne, Marseille, Mercy-le-Haut. Pas un seul de Moissac, pas un seul de Toulouse. Il avait à peine prononcé ces mots qu'en se tournant vers la jeune fille, il surprenait son regard apeuré, ses petites dents qui mordillaient fiévreusement la lèvre inférieure. « Tu devines où je veux en venir, Lucas ? Bompard, en bonne fortune, comme cela doit être son habitude, si j'en juge par les photographies découvertes chez lui, descend dans un hôtel quelconque en face de la gare du Nord. Quelqu'un l'a reconnu. Quelqu'un qui a des raisons de lui en vouloir. Ce quelqu'un, cette gamine butée, le connaît aussi, puisqu'elle se tait, puisqu'elle invente n'importe quoi plutôt que de dire la vérité. Nous brûlons, je le sens. » Il répéta rêveusement. Moissac, Toulouse. Et le costume tailleur vient d'une maison de Bordeaux. Il décrocha l'appareil téléphonique, le passa à Lucas. Demande-moi l'éditeur de musique pour qui travaillait Bompard. Qu'il te dise quelle a été la dernière tournée de son voyageur. Dans ces moments-là, on eût dit que Maigret grandissait, devenait plus épais et plus large. Il fumait par bouffées épaisses, et parfois c'était un regard vraiment écrasant qu'il laissait tomber sur la jeune fille. Il semblait dire « C'est entendu. Quand vous m'avez vu, vous vous êtes imaginé que j'étais beaucoup moins malin que certains le prétendent. Un bon gros, n'est-ce pas ? Un bon gros qu'une petite fille peut allumer et qui va s'amuser à la faire déshabiller. Un sentimental par-dessus le marché, qui roule des yeux attendris et qui se fâche et qui s'énerve. Un instant, ma petite. » Et à Lucas, occupé à téléphoner, qu'est-ce qu'il dit ? Bompard a dû passer les derniers mois dans le sud-ouest. « Suffit, raccroche. » Il vida son demi d'un trait, tisonna le poil pendant un bon moment, se retourna, soudain calme, et dit à Lucas d'une voix si inattendue que la jeune fille ne put s'empêcher de sourire. « Tu ne pouvais pas me faire remarquer que j'étais un idiot ?»« Mais patron, les valets de chambre et les femmes de chambre, tu les as questionnées ?»« Oui, patron. Il n'y a que 2 femmes de chambre qui couchent à l'hôtel, au 6e. Elles n'ont rien entendu, fatalement. » Elles sont descendues les dernières quand le remue-ménage les a tirées du sommeil. Tu as les noms ? D'abord, Berthe Martineau, 19 ans. D'où ? Je cherche. De Compiègne. L'autre ? Lucienne Jouffroy, 45 ans, de... Moissac ! Et Lucas, qui était de petite taille, leva vers le commissaire un regard à la fois stupéfait et admiratif. « Tu as compris maintenant ? Saute dans un taxi, va me la chercher, mais fais vite, sacrebleu !» Et il poussa le brigadier dehors, referma la porte avec un geste de lassitude heureuse. Il regardait les photographies les unes après les autres et s'avisait seulement que les maîtresses de Bompard étaient toutes des jeunes filles, et souvent de très jeunes filles. « Laquelle est-ce ? » demanda-t-il d'un ton bon enfant à sa prisonnière. Ils avaient presque aussi sommeil l'un que l'autre. Les épaules de Céline se tassaient. Au lieu de répondre, elle hochait négativement la tête. « Le portrait de Lucienne Geoffroy n'est pas là-dedans ?»«
Je ne peux encore rien dire, »
soupira-t-elle enfin avec effort.
« Pourquoi ?
Vous attendez l'arrivée de cette femme ?
Avouez que vous êtes de Moissac.
Je parlerai tout à l'heure.
Pourquoi pas maintenant ?
Parce que... Savez-vous ce que je ferais, moi, si j'avais une fille comme vous ? Je lui donnerais de temps en temps une bonne paire de claques, histoire de lui apprendre à vivre.
Tenez, je parie que vous avez commencé par sélectionner des photographies d'artistes de cinéma, non ?
Alors vous avez lu trop de romans.
Doucement, elle rectifia. Je faisais de la musique.
Et elle sursauta quand Maigret affirma avec assurance.
Bon, c'est la même chose. Vous vous exaltiez. Vous avez rencontré Georges Bompard ?
Ce qui m'étonne, par exemple, c'est que vous vous soyez emballé pour un voyageur de commerce.
Elle rectifia encore. Il m'a dit qu'il était compositeur. Il jouait admirablement du piano.
L'intimité s'était recréée entre eux. Cette intimité curieuse qui s'établit plus souvent qu'on ne le pense entre le policier et le criminel. Le bureau était surchauffé, plein de fumée. On entendait vaguement les bruits de la PJ, les coups de téléphone dans les pièces voisines, les pas dans le long couloir et à l'arrière-fond montaient des klaxons d'auto sur le pont tout proche.
« Vous l'aimiez ?»
Elle ne répondit pas, baissa la tête.
« Vous l'aimiez, c'est certain.
Et je me demande si c'est lui qui vous a emmené ou si c'est vous qui l'avez suivi, qui vous êtes accroché à lui. » Elle répliqua simplement en levant les yeux.
« C'est moi. Après. »
Il comprit. Il se retrouvait de plein pied dans la réalité banale qui est au fond des affaires les plus compliquées en apparence. Un voyageur de commerce qui aimait les jeunes filles et qui se poétisait à leurs yeux en se donnant pour un grand compositeur. Une provinciale exaltée comme on l'est à 18 ou 19 ans et qui, après s'avoir cédé, avait voulu défendre son bonheur. « C'est lui qui vous a amené à Paris ?
C'est moi qui suis venue. »
Et vous avez donné son adresse ?
Non.
Il s'entourait de mystères. Mais il m'avait dit qu'il fréquentait certains cafés du boulevard Saint-Germain. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je n'avais pas de bagages et il est allé chercher sa trousse de toilette. Il me priait de rester quelques jours à l'hôtel, après quoi il serait libéré de certaines obligations et pourrait s'occuper exclusivement de moi. Le matin, quand elle essayait de se donner pour une aventurière sans envergure, Maigret avait failli la croire. Tant elle jouait cette comédie à la perfection. Au cours de la journée, il l'avait vue tour à tour très enfant et très femme, raidie et abattue, méchante et découragée. « Votre inspecteur ne va pas vite, » remarqua-t-elle soudain en regardant sa montre bracelet. « C'est un brigadier. Je ne connais pas la différence. »«
Il y a longtemps que vous avez quitté Moissac.
Je ne dirai rien maintenant. »«
Vous connaissiez le gardien du fieu ?»
« Je parlerai quand le brigadier sera revenu. »«
Donc vous croyez que Lucienne Geoffroy est partie ?»«
J'en sais rien. »«
Faites-moi encore monter du café, voulez-vous ? Je suis écrasée de fatigue. »
Il téléphona au garçon de bureau. Peu après, on lui passa une communication.
« Hein ? Tu dis ? » ?»«
Oh, tant pis, mon vieux. Il fallait s'y attendre. »« Mais oui, on va envoyer le signalement à toutes les frontières. »
Il se tourna vers la jeune fille. « C'est le brigadier Lucas. »
Il m'annonce que Lucienne Geoffroy a quitté l'hôtel à la fin de la matinée sans prévenir personne.
Et dans l'appareil,
« Reviens tout de suite.
Oui, c'est ça. »
Il raccrocha et trouva son interlocutrice méfiante.
« Je suppose que maintenant, rien ne vous empêche de parler.
Qu'est-ce qui me prouve que vous ne me mentez pas ? Peut-être même n'y avait-il personne au bout du fil ?
Bravo pour la confiance. Eh bien, mon petit, puisqu'il en est ainsi, il nous suffit d'attendre le retour de Lucas. »
Vous le croirez, lui ?
Peut-être.
Ils finissaient par être à cran, l'un et l'autre.
Un quart d'heure s'écoula sans que deux phrases fussent échangées. Et enfin, Lucas arriva, confus, inquiet.
« J'aurais dû y penser dès ce matin, patron. »«
Comment voulais-tu y penser ce matin, puisque je n'y ai pas pensé moi-même ?»«
Et le gardien de nuit ? Il est ici, dans le couloir. »«
Qu'est-ce qu'il dit ?»«
Oh, rien. Il prétend qu'il ne sait rien. »«
Fais-le entrer. »
Le bonhomme, les épaules basses, lança à Maigret un coup d'œil sournois.
« Quelles sont au juste vos relations avec Lucienne Geoffroy ?»«
C'était ma belle-sœur. »«
Asseyez-vous, ne craignez rien, mais répondez franchement à mes questions. »«
Votre belle-sœur avait une fille ?»«
Rosine, oui.
Qu'est-elle devenue ?»«
Elle est morte. »«
De quoi ?»
Silence obstiné, Maigret insista. « De quoi ?»
Et ce fut Céline qui murmura en se tournant vers le gardien.
« Vous pouvez le dire, Joseph.
Elle est morte d'une opération qu'elle s'est fait faire parce qu'elle était enceinte. Elle avait 16 ans.
Ça se passait à Moissac ?»«
À Moissac, il y a 3 ans.
Et Georges Bompard était en tournée là-bas ?»«
C'est lui qui a tout fait. C'est lui aussi, quand elle est allée le trouver, pour lui annoncer qu'elle était enceinte, qu'il l'a menée chez une sage-femme. »«
Un instant, Dufieux. Je suppose que c'est à la suite de ces événements que votre belle-sœur est venue à Paris et que c'est vous qui l'avez fait entrer comme femme de chambre à l'Étoile du Nord. »
L'autre fit oui de la tête.
« Cette nuit, vous avez été très étonné, j'en suis certain, voyant arriver dans ce même hôtel à 3 heures du matin une jeune fille que vous connaissiez, une jeune fille de bonne famille de Moissac. »«
Mademoiselle Blanchon, » murmura-t-il malgré lui.
« La fille du juge Blanchon ?»
Dufieux, effrayé, se tourna vers la jeune fille et celle-ci articula nettement. « Geneviève Blanchon, oui, monsieur le commissaire, mon père ne sait rien. C'est hier matin seulement que j'ai quitté Moissac, où Bompard m'avait promis de m'écrire et où je ne recevais pas de nouvelles. »
« Un instant, voulez-vous ?
Donc, Dufieux, vous avez été surpris en voyant cette jeune fille, mais vous l'avez été beaucoup plus lors de l'arrivée de Bompard. »
Gardien d'hôtel, le fait qu'il se présente quelques minutes l'un après l'autre ne vous trompez pas.
Non, monsieur le commissaire.
Vous êtes donc monté au 6e pour avertir votre belle-sœur.
C'est exact.
Vous vous doutiez que cela finirait par un drame ?
Je savais que ma belle-sœur avait envie de se venger de cet homme.
Maigret se tourna vers le brigadier. Lucas, emmène-le dans ton bureau, veux-tu ?
Il préférait rester seul avec la jeune fille qui, maintenant, ne pensait plus à crâner.
Lucien Geoffroy est entré tandis que vous étiez là.
Oui.
Vous saviez que sa fille avait été la maîtresse de Bompard ?
Oui.
Et qu'il l'avait emmenée chez la faiseuse d'ange ?
Oui.
Et malgré cela, vous l'avez rejoint à Paris ?
Elle dit durement en baissant la tête.
Je l'aimais, mais il m'avait fait croire que Rosine avait d'autres amants.
Si j'étais votre père, grogna Maigret,
qu'est-ce que vous feriez ?
Je ne sais pas, mais...
Ainsi, vous êtes parti de chez vous sans argent, sans bagages. Et c'est Bompard qui vous a donné 1 000 francs pour vivre à l'hôtel de l'Étoile du Nord en attendant.
Je l'aimais, je l'aimais.
Et maintenant ?
Je ne sais plus.
Ce que j'ai voulu éviter, c'est qu'on arrête Lucien Geoffroy. Et aussi que mon père apprenne.
La sonnerie du téléphone tintait, Maigret répondait bougon.
Oui, bon, mais tant pis pour elle.
Bien entendu.
Et raccrochant.
Lucien Geoffroy n'a même pas tenté de franchir la frontière. Elle a erré des heures dans Paris et elle vient de se rendre dans un commissariat où elle a tout avoué.
Elle n'a pas parlé de vous.
Elle a seulement prétendu que Bompard était couché en compagnie d'une jeune fille publique qu'elle ne connaissait pas.
Alors, comme je connais les jurés de la Seine, elle sera sûrement acquittée.
Et moi,
vous ?
Debout, il donna soudain libre cours à une envie trop longtemps retenue. Et il gifla la jeune fille qui en resta tellement saisie qu'elle ne put prononcer une parole.
« Venez. »«
Où ? » ?»«
Ça ne vous regarde pas. »
Il la fit traverser les couloirs, se trouva avec elle dans la cour obscure de la PJ.
« Hé, taxi !»
Et l'obligeant à y monter, il grommela comme pour lui-même.
« Il y a 2 portières. »
En supposant que dans la cohue, quelqu'un sorte par une de ces portières, puis il se tut. La voiture longeait la rue de Rivoli, la jeune fille ne bougeait pas.
« Dites donc, » grogna Maigret,
« vous avez perdu votre intelligence,
oui ?»«
J'ai sommeil, » soupira-t-elle.
« Eh bien, vous dormirez après. Je vous préviens que si dans 1 minute,
elle entrouvrit la portière, hésita, et lui, furieux.
« Mais foutez le camp, sacrebleu, espèce de dinde !»
Le chauffeur se retourna, ne vit qu'une personne dans son auto, voulut s'arrêter, mais le commissaire baissa la glace et murmura.
Arrêtez-moi dans une bonne brasserie. J'ai une de ces soifs.
Nous avons entendu la deuxième partie de L'Étoile du Nord de Georges Simenon.
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto.